Bonjour, je suis avec Alain Castan. Donc, nous sommes à la préfecture de Périgueux. Nous allons rentrer dans une réunion sur les villages d'avenir. Alors, qu'est-ce que c'est que les villages d'avenir, Alain?
Les villages à venir, c'est une opération nationale enfin, qui avait été demandée par l'Association des maires ruraux de France parce qu'il n'y avait pas de programme comme les petites villes de demain et des cœurs de ville qui avaient été faits pour les villes et puis les métropoles. Donc nous avions demandé à l'Association des maires ruraux de faire aussi un organisme pour venir en aide aux communes rurales qui avaient des projets parce que ces communes rurales n'ont bien sûr pas de service et pas d'ingénierie. Les villages à venir ont été créés par le ministre des Territoires au Congrès national d'Aimé, justement. C'est symbolique, mais c'est important. On l'avait demandé, ça a été accordé après le Congrès national d'Aimé. Donc aujourd'hui, en Dordogne, nous avons 45 communes de la Dordogne qui se sont portées candidats pour ces villages à venir, où l'État, par le biais de la ANCT, l'Association nationale des collectivités territoriales, va leur proposer de monter le projet gratuitement au niveau de l'ingénierie et au niveau de la recherche des subventions.
Alors, tu parles de 45 communes qui ont été sélectionnées ou il y a eu beaucoup plus de demandes?
Alors, il n'y a pas eu plus de demandes, mais la Dordogne avait ses 45 dossiers et est quand même un des principaux départements à l'avoir demandé parce que c'est nous qui avons le record des candidatures sur des projets importants, quand même, des projets qui dépassent les 200 000 euros. Et d'ailleurs, nous avons deux dames de représentantes de l'État qui s'occupent de ce dossier-là à la préfecture, une à Bergerac, à sous-préfecture, une à la préfecture de Périgueux, alors que les autres départements n'ont qu'une. Donc, ça veut dire que les dossiers sont importants et qu'il y a de l'attente vis-à-vis des communes rurales.
Alors, est-ce que tu peux, pour nos auditeurs, nous expliquer un petit peu un type de projet, par exemple, qui a été retenu?
Je vais vous parler de celui de Saint-Aubin-de-Cadelèche que je connais bien. À Saint-Aubin-de-Cadelèche, il y a des bâtiments qui très longtemps ont été une institution religieuse pour de l'éducation au niveau des enfants, pour simplifier une école privée religieuse. Et ces bâtiments qui sont assez imposants, qui sont vieux, qui sont non isolés, en fait tout ce qui concerne des vieux bâtiments, la mairie a décidé de les acheter, enfin en posséder une partie mais en tout racheter. Et donc ces bâtiments aujourd'hui la mairie veut en faire des logements bien sûr parce que c'est important qu'il y ait des logements dans notre département et donc n'a pas les moyens aujourd'hui d'avoir l'ingénierie pour un tel projet pour continuer le projet et pour faire aboutir ce projet. Donc à Saint-Aubin-de-Cadelèche, ils ont été candidats et retenus pour les villages à venir et donc ça veut dire quelque part que toute l'ingénierie du projet est payé par l'État et ça va nettement soulager la commune. Et après, les deux dames qui sont, alors j'ai plus leur nom, les deux dames qui sont chargées de suivre le dossier vont aider la commune à aller rechercher les subventions de façon que le projet coûte le moins cher possible à la commune.
D'accord, donc c'est pour permettre à des communes de redonner un petit peu de valeur à leur patrimoine et de pouvoir amener de nouvelles populations, par exemple ou...
C'est exactement ça, c'est exactement ça. Aujourd'hui, on a beaucoup de bâtiments, pas abandonnés, mais qui ne servent plus dans les communes, et particulièrement un qui est important, c'est qu'on a eu beaucoup d'écoles qui ont été supprimées, mais l'éducation nationale et les mairies ne se sont pas rendues compte que ces bâtiments ils existaient. Ils sont plus ou moins vieux, plus ou moins énergivores. Et c'est vrai que quelque part, les communes aujourd'hui s'intéressent à travers le tourisme, à travers tout ce qui peut, alors les crèches, les médiathèques, les choses comme ça, ces bâtiments peuvent être rénovés. Et c'est très intéressant que les villages à venir viennent à leur secours, je vais dire un petit peu, pour sauver du patrimoine. Parce que souvent, je prends l'exemple des écoles, beaucoup sont de l'époque de Jules Ferry. On a beaucoup d'écoles qui ont du style, qui sont pas classées, mais presque. Et donc, c'est important aujourd'hui que l'État s'en préoccupe et aille aider ces communes à pouvoir les réhabiliter.
Ouais, d'autant plus qu'en ce moment, donc vous, dans les mairies, vous discutez de vos budgets qui sont peut-être un peu en baisse.
Et les budgets, je l'ai déjà dit dans d'autres émissions, l'État nous ponctionne de plus en plus. Aujourd'hui, chaque mairie rurale a perdu à peu près un tiers de ses revenus. Donc c'est en gros ce qui nous est arrivé. Et donc, quelque part, quand vous avez un projet sur le plus bel exemple, je l'avais donné, c'était une commune qui avait un budget de 150 000 euros. Et qui, une fois que tout le fonctionnement était mis en place, ça représentait une centaine de mille euros. Il restait 50 000 euros. Quand vous savez qu'un kilomètre de voirie, c'est 25 000 euros, vous voyez qu'il ne reste pas grand-chose pour l'investissement. Et c'est là-dessus que l'Association des maires ruraux, on s'est battu et on se bat encore pour pas oublier ça et pour que l'État vienne en aide sur des subventions. Aujourd'hui, un projet qui dépasse 100 000 euros dans une commune rurale, si l'État, si la région, si le département et si les intercommunalités ne viennent pas donner de subventions à hauteur de 50 à 60%, le projet il aboutit pas. Parce que la commune ne peut pas supporter plus de 40% du montant total de l'investissement.
Donc pour revenir sur deux petits points, donc c'est comme tu l'as dit tout à l'heure, Village d'Avenir, c'est le congrès d'AIMÉ. Donc ça, je pense que c'est important de revenir sur cette question-là. Le point d'appui important, pour que nos auditeurs comprennent bien, c'est sur l'ingénierie, c'est-à-dire sur... Parce que bon, c'est vrai que dans les grandes villes, ils ont des services qui peuvent permettre de construire un bâtiment, mais dans une petite commune, effectivement, ce n'est pas la secrétaire de mairie qui va pouvoir faire le boulot.
Ni le maire. Bien souvent, ça a été le maire quand c'était des projets qui étaient inférieurs à 50 000 euros. Bon, ça, sur l'offre de marché, elle est rapide, elle est locale. Mais quand vous commencez à atteindre des projets à 200, 300, 400 000 euros, il est bien évident qu'il faut souvent se tourner vers des organismes et des bureaux d'études. Et c'est vrai que quelque part, ces bureaux d'études, aujourd'hui, ça coûte énormément cher. Et donc, l'ANCT, l'Association nationale des collectivités territoriales, a ce service-là d'ingénierie. Et ce sont des bureaux d'études de l'État qui viennent remplacer justement ces bureaux d'études privés et qui permettent à la commune de sortir vraiment 0 € pour l'ingénierie et pour le montage du projet. Et ça, c'est important pour les communes, parce que ça démarre là. Si le projet, sur l'ingénierie, est trop cher, le maire, il a vite abandonné, quoi.
Oui, non, parce qu'effectivement, si tu as un petit budget et puis la construction du projet, l'ingénierie, comme tu dis, c'est-à-dire faire les schémas, voir les normes, tout ça, ça coûte 200-300 000 euros. Effectivement, la commune ne va pas pouvoir s'endetter sur les sommes aussi importantes.
Alors, ce n'est pas 300 000 euros l'étude. Une bonne étude sur un projet de 300 000 euros, c'est à peu près 20 à 30 000 euros. Mais 20 à 30 000 euros pour une commune rurale, c'est trop pénalisant, quoi. Donc ça ne se fait pas. Il faut le rajouter en plus, parce que ça, on l'oublie souvent. Une fois que le projet est déposé, une fois que le projet est bien ficelé, derrière, il faut le payer. Il faut payer les artisans et les gens qui vont intervenir. Et c'est vrai que ça rajoute en plus au devis de la mairie. Et donc, de voir l'État aujourd'hui avec les villages à venir au secours de ça, c'est déjà un premier pas. Derrière ça aussi, il faut... Moi, j'ai bien spécifié au préfet qu'il n'y a pas 36 subventions à aller chercher au niveau de l'État. C'est d'abord la DETR, la dotation des équipements des territoires ruraux. C'est la DECIL qui est plutôt prévue pour les intercommunalités, mais qui peuvent rentrer dedans. Et puis, bien sûr, le fonds vert qui a été fait pour tout ce qui touche la transition énergétique et écologique, où les maires peuvent demander au préfet. Le préfet a reçu des ordres de l'État de prioriser ces projets-là. Donc, quelque part, quand sur les 45 communes qui déjà ont eu l'ingénierie gratuite, ils sont assurés d'avoir une des aides de l'État. C'est le premier point. Le département aujourd'hui est en difficulté financière et beaucoup de projets ont été revus à la baisse, mais il sera quand même là. La certitude, l'accord du président du département, ça peut être la région. Et ces jeunes dames qui s'occupent du dossier vont aller chercher des fonds européens par rapport à la région, parce que ça, c'est important aussi. Et puis derrière ça, certaines intercommunalités collectivités peuvent donner ce qu'on appelle des fonds de concours. Donc quelque part, quand une commune ne paie pas l'ingénierie et qu'il voit son projet financé à hauteur de 50%, le maire commence à sourire et se dit « mon projet, il va aboutir ».
Ben, je te remercie. Je vais continuer avec quelques maires qui ont bénéficié de ces aides pour leur demander comment ils ont préparé leur dossier. En attendant, bon, peut-être, je sais que bon, vous avez une assemblée générale le 12 avril à Château-l'Évêque. Peut-être dire un petit mot là-dessus et tu vas peut-être parler des villages d'avenir dans cette réunion.
Je vais en parler, mais très peu, parce que les maires sont bien au courant aujourd'hui. Mais par contre, moi, j'invite tous les élus, et tous les élus, parce que ça ne concerne pas que les maires, mais j'invite tous les élus, conseillers municipaux qui écoutent l'émission, à venir nous rejoindre donc le 12 avril, le matin, à 9h30, à la salle des fêtes de Château-l'Évêque, parce qu'il va y avoir un événement majeur. Je fais venir Olivier Torres, qui est un grand professeur d'université de Montpellier, qui va nous faire une conférence qui a été ovationnée au Congrès national en Côte d'Or l'année dernière, qui va nous parler du mal-être de l'élu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'élu, il vit mal son mandat. Beaucoup ont arrêté, il y en a beaucoup qui ont démissionné. Les conseillers municipaux, c'est pareil, parce que ça devient de plus en plus difficile. Et ce professeur a fait un ratio un petit peu de tout ce qui peut se passer dans les mairies et du ressenti de ces conseillers municipaux. Donc ça va être très intéressant. Moi, j'invite, ça dure une demi-heure, la conférence, j'invite tous les élus, maires, adjoints et conseillers municipaux à venir nous rejoindre le 12 avril à la salle des fêtes de Château-l'Évêque à 9h30.
Bon ben là, je te remercie, je te souhaite une bonne réunion et nous allons continuer par notre petite pause musicale avant de retrouver nos collègues élus.
Devant le portail vert de son école primaire, on le reconnaît tout de suite. Toujours la même dégaine avec son pull en laine, on sait qu'il est un stit. Il pleure la fermeture à la rentrée future de ses deux dernières classes. Il paraît que le motif c'est le manque d'effectifs, mais on sait bien ce qui se passe. On est les oubliés, la campagne les paumés, les trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. À vouloir regrouper les cantons d'à côté en 30 élèves par salle. Cette même philosophie qui transforme le pays en un centre commercial. Ça leur a pas suffi qu'on ait plus d'épicerie, que les médecins se fassent la malle. Y'a plus personne en ville, y'a que les banques qui brillent dans la rue principale. On est les oubliés, la campagne, les paumés, les trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. Qu'il est triste le patelin avec tous ses ronds-points qui font tourner les têtes. Qu'il est triste le préau sans les cris des marmots, les ballons dans les fenêtres. Même la petite boulangère se demande ce qu'elle va faire de ses bons becs qui collent. Même la voisine d'en face, la peur, ça l'angoisse, ce silence dans l'école. On est les oubliés, la campagne, les paumés, les trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. Quand dans les plus hautes sphères, couloirs du ministère, les élèves sont des chiffres. Y'a des gens sur le terrain, de la crêpe plein les mains, qu'on prend pour des sous-fifres. Ceux qui ferment les écoles, les cravates et du col sont bien souvent de ceux qui ne verront jamais, ni de loin ni de près, un enfant dans les yeux. On est les oubliés, la campagne, les paumés, les trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. On est troisième couteau, dernière part du gâteau, la campagne, les paumés, on est les oubliés.
Dans le portail vert de son école primaire, il y a l'institut du village. Toute sa vie des gamins, leur construire un lendemain, il doit tourner la page. On est les oubliés.
Bon, ben, bonjour, je suis avec Monsieur Marty, le maire de
Thomas de Cadelèche.
Voilà. Donc, ton projet a été retenu. On en a un petit peu parlé tout à l'heure avec Alain, mais est-ce que tu peux préciser un peu l'idée première que vous aviez?
Voilà, notre commune a acheté avec l'établissement public foncier Nouvelle-Aquitaine un bâtiment qui est à l'entrée du village de Saint-Aubin. Ce bâtiment est l'ancienne colonie de vacances de la congrégation Sainte-Marthe de Périgueux, où les sœurs de Périgueux menaient les enfants des écoles à Saint-Aubin en vacances. Et notre projet, c'est de faire un lieu de vie partagé pour personnes âgées avec une dizaine d'appartements.
Donc c'est un gros projet parce que c'est un vieux bâtiment, il y a beaucoup de rénovations à faire, des restructurations.
On va certainement garder les murs et la toiture. Et on va repartir d'une coquille vide pour tout refaire à neuf à l'intérieur pour pouvoir faire quelque chose qui soit accessible à des personnes âgées.
Donc à peu près, c'est pour nos auditeurs qui comprennent un petit peu, votre projet il est estimé à combien?
Il est estimé à 1 200 000 euros.
Et au niveau de l'ingénierie?
Au niveau de l'ingénierie, on n'en est pas encore là, je ne sais pas trop. Voilà.
C'est pas un ordre d'idée, 10 000, 20 000, 30 000, 50 000 euros pour... qui serait donc pris en charge par l'État.
Oui, mais je ne sais pas encore, ça n'a pas été chiffré totalement, mais il y a une somme importante. Déjà, l'État, à travers Village d'Avenir, nous a payé l'étude qui a été faite et l'aide qui nous a apporté le cabinet et conseil. Donc oui, c'est une somme importante qui a été apportée par l'État pour nous aider, oui.
Et si vous n'avez pas eu cette aide-là, est-ce que vous auriez pu faire ce projet? Ou plus difficilement.
Certainement, on aurait essayé, mais je ne suis pas sûr qu'on aurait pu le faire. Mais bon, encore, on n'est pas sûr de le faire, parce qu'on ne sait pas encore, on n'est pas encore au financement, et donc on ne sait pas exactement le financement qu'on va avoir. Enfin, j'ai bon espoir, je pense qu'on va y arriver, mais on ne sait pas encore tous les financements qu'on va avoir pour payer cette somme.
Oui, parce que notre émission, c'est pour expliquer un petit peu les difficultés qu'ont les élus. Vous êtes élu, je ne sais pas, ta profession?
Je suis retraité, agriculteur à la retraite.
Donc ce n'est pas forcément de devenir architecte ou...
Non, voilà, oui, je suis maire depuis 2014. Mais bon, moi je fais partie des maires qui sont contents d'être maires et qui ne se plaignent pas. J'ai eu la chance d'avoir une population de ma commune où j'ai très peu de problèmes et moi ça se passe très bien. C'est vrai, oui, je le dis parce que c'est vrai, j'entends souvent des maires qui se plaignent, tout ça, mais enfin, moi ça se passe très bien. Ouais.
Donc tu as la chance peut-être d'avoir une bonne équipe aussi qui te...
Oui, j'ai une très bonne équipe, j'ai une commune rurale où il y a 350 habitants, c'est une petite commune. Mais non, ça se passe très bien, l'ambiance est très bonne, j'ai un conseil municipal dynamique et ça, c'est intéressant de travailler comme ça, oui.
Oui, parce que c'est combien le montant de ton budget?
Le montant de mon budget total, c'est 700 000 euros.
Donc c'est vrai qu'avec un budget de plus d'un million, ça veut dire des emprunts forcément importants. Donc s'il n'y a pas des subventions...
On a la chance, on avait pendant le premier mandat, on avait refait tous les bâtiments communaux. C'est bien tombé parce qu'à ce moment-là, les taux étaient bas. Le conseil départemental donnait beaucoup d'aide à ce moment-là, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Et aujourd'hui, les taux sont élevés. Et on a eu beaucoup de chance de pouvoir faire tous ces travaux. On a rénové la salle des fêtes, on a rénové l'église, on a fait trois logements, on a fait des bureaux d'entreprise. Et là, ce mandat, on s'est un petit peu reposé. Parce que vu qu'on a ce gros projet, on voulait remettre notre trésorerie à flot pour pouvoir préparer ce projet. Oui.
D'accord. Ben, je te remercie.
J'espère
que ça, au niveau des auditeurs, ça leur a fait plaisir. Donc, bon courage pour ton projet.
Merci.
Bonjour. Donc, je suis avec Madame Boyer, qui est maire de Beauregard et Bassac. Donc, vous avez fait un projet. Vous pouvez nous en parler un petit peu?
Alors ce projet, en fait, nous l'avons fait à 3 communes, puisque nous sommes en regroupement pédagogique, donc Beauregard et Bassac, ma commune, la commune de Foulex et la commune de Grumbordas. Et notre projet, c'est de travailler autour de la mobilité, avec une envie de faire se déplacer notre population un petit peu plus à vélo. Et dans un avenir peut-être un petit peu plus lointain, c'est en ayant aménagé des pistes cyclables, de pouvoir faire que nos enfants de nos écoles puissent aller les uns les autres dans les écoles à vélo.
Et donc c'est un petit projet, c'est au niveau des routes, quoi. Ça demande beaucoup d'investissement.
On a déjà travaillé bien sûr sur un circuit et on utilise déjà des voies communales existantes et des chemins ruraux aussi, justement avec l'idée bien de faire le moins d'aménagement possible sur nos routes.
Donc pour permettre et surtout sécuriser, si les enfants vont à vélo, il faut qu'ils soient sécurisés, qu'il n'y ait pas trop de véhicules.
Tout à fait, c'est pour ça que nous travaillons aussi avec les services de l'État pour justement parler bien sûr de sécurité. C'est le point majeur en fait aussi de notre projet, la sécurité.
Et à la hauteur du projet financièrement ?
On n'en est pas encore là du tout, du tout, du tout. Là, on a commencé à faire nos tracés, relier nos communes entre elles. Mmh. Voilà, on n'a pas du tout parlé de
budget. C'est à peu près combien de kilomètres le circuit ?
Ça peut aller jusqu'à une petite trentaine de kilomètres.
Ah, c'est un bel investissement. Ouais. Et après, il y aura de l'entretien au niveau des routes,
non ? Ben, il y aura de l'entretien, mais on le fait déjà. De toute façon, on l'a déjà à notre charge.
Mmh. Voilà. Et donc, vous avez été retenu, d'après ce que j'ai compris.
Oui, donc nos 3 communes ont été retenues sur le projet Village d'Avenir.
Et donc maintenant, vous allez dans la phase
de travail.
De travail. Ben, je remercie et bon courage à vous.
Merci beaucoup, merci, au revoir.
Donc je suis avec Mallory Delage, qui est chef de projet à Village d'Avenir. Est-ce que tu peux préciser un petit peu ton rôle ?
Oui, alors je suis chef de projet donc à la préfecture de la Dordogne. Mon rôle, c'est d'accompagner les communes qui sont labellisées dans le cadre du programme. Donc sur mes 2 arrondissements, ça représente 26 communes. Accompagner les élus dans leurs projets, les aider à les porter, voilà, coordonner un peu tous les acteurs pour que les projets avancent et pour que les communes se revitalisent.
Tu es dans quel secteur, sur le nord du département ?
C'est ça, je suis sur les arrondissements de Périgueux et Nontron. J'ai rencontré les maires des communes labellisées donc au début de l'accompagnement en mai 2024. Donc ils m'ont présenté leurs projets, ce qu'ils portent, et puis je viens les appuyer là où ils ont besoin d'accompagnement pour trouver des financements, pour mettre un peu de lien dans tous les acteurs, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs différents qui interviennent sur les projets, notamment au niveau de l'ingénierie locale, mais aussi au niveau des financeurs. Donc voilà, je les accompagne pour qu'ils puissent avancer leurs projets, se retrouver un peu dans tous les dispositifs qui existent.
Donc on va déjà commencer par parler de l'ingénierie. Donc ça consiste en quoi exactement ?
Alors, l'ingénierie relative à Village d'Avenir, ce que j'expliquais, c'est que c'est vraiment de l'ingénierie de coordination de projets. On appuie les élus. C'est vraiment les élus qui portent leurs projets. Et nous, on vient vraiment en appui là où ils ont besoin sur de la recherche de financement, donc de l'ingénierie financière, de la coordination de projets, éventuellement de l'ingénierie administrative s'il y a besoin, les aider à rédiger des dossiers de subvention, par exemple, des choses comme ça.
Et ingénierie sur la construction du projet, par exemple, un bâtiment, voir toutes les règles, tout ça ?
Alors, quand c'est un projet, par exemple, de construction de bâtiment, on peut prendre cet exemple. Notre rôle, ça va être, par exemple, d'aiguiller les élus. Donc, dans le département, il y a l'ATD qui intervient sur ce type de projet, qui peut leur faire une étude de faisabilité. Donc, en général, les élus les connaissent bien, donc ils font appel à l'ATD pour avoir une première base de réflexion. Et ensuite, l'objectif, ça va être de les aider à trouver des financements pour ce bâtiment et à se repérer un peu peut-être dans le calendrier, projeter un calendrier, un rétro-planning de travail, quelles sont les phases futures, et voilà, les accompagner dans l'avancée.
Et en moyenne, ça met combien de temps un dossier ?
Alors, c'est très variable en fonction du projet, mais en moyenne, c'est assez long. La vie d'un projet, on peut dire que c'est facilement 1-2 ans, voire un peu plus, en fonction de la complexité du projet.
Donc c'est des projets que les élus doivent anticiper et en se disant « bon ben, je commence mon mandat et j'aurai 3-4 ans avant de pouvoir obtenir ».
C'est ça, oui, c'est très long. À partir du moment où les élus ont l'idée, ils font maturer l'idée, etc. Donc ça prend déjà plusieurs mois, souvent. Après, les études de faisabilité, les études préopérationnelles, etc., les études opérationnelles, tout ça, ça prend vraiment... pas mal de temps, mais...
Alors, tout à l'heure, bon, j'écoutais, donc 45 projets cette année en Dordogne et la moyenne c'est 25. Et qu'est-ce qui a fait la différence?
On a eu la chance, comme on est un département très rural, d'avoir un deuxième poste de chef de projet. Donc c'est ma collègue Claire Piednoir qui est financée par le CEREMA. Et donc le fait d'être deux, ça nous a permis de labelliser beaucoup plus de communes et de garder un accompagnement qualitatif et d'être quand même très présente sur le terrain. Les départements qui ont moins de communes labellisées, c'est souvent des départements qui n'ont qu'un seul chef de projet, donc qui sont moins rurales que la Dordogne.
Moins rurales et peut-être aussi moins de patrimoine, parce que souvent les projets, c'est autour d'un patrimoine important.
Oui, et les projets patrimoniaux, en plus, sont des projets très complexes, qui prennent du temps. Donc effectivement, en Dordogne, on a beaucoup de patrimoine, donc on a beaucoup de projets complexes.
Et là, pour l'année prochaine, vous avez aussi beaucoup de projets?
Alors, on poursuit les projets qui sont en cours. Donc, actuellement, sur les 45 communes, on accompagne 120 projets, donc qui sont à des stades de maturité différents. Il y en a qui sont déjà engagés, il y en a qui sont en réflexion, en phase d'étude. Il y en a certains qui sont en sommeil aussi, puisque les élus nous en ont parlé en début d'accompagnement. Ils veulent les porter, mais ils ont dû faire un travail de priorisation, puisqu'on ne peut pas forcément porter tout de front, 6 ou 7 projets de front. Donc, certains ont été... à journée, voilà, ils les reprendront plus tard, mais voilà, on poursuit l'accompagnement des 120 projets.